Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 24 novembre 2015. Au sommaire ce soir...
François Hollande à la Maison-Blanche, le président français et son hôte Barack Obama réaffirment leur engagement commun contre le groupe État islamique.
We want to gather all countries, all those who are willing to find and to implement a political solution in Syria.
Le président français à travers une interprète. Explosion en Tunisie, au moins 11 morts, le gouvernement parle d'un attentat.
Le gouvernement burundais dénonce des sanctions du président Barack Obama contre de hauts responsables du Burundi impliqués dans la crise.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes.
Élection au Burkina Faso, la commission électorale veut un fort taux de participation.
On fera deux choses, les sensibiliser pour qu'elles votent, ensuite leur montrer comment il faut y procéder.
Pour que le maximum de gens déjà prennent la décision d'aller voter.
La Turquie abat un avion de guerre russe, Moscou maintient que l'appareil était dans l'espace aérien de la Syrie et accuse Ankara de se ranger du côté des terroristes.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Selon les autorités administratives de la province de Rouyi...
On commence en Tunisie. 11 morts dans l'explosion à bord d'un bus de la sécurité présidentielle, selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un attentat, a dit à l'agence France-Presse la présidence tunisienne. Il y aurait plusieurs morts, selon le ministère de l'Intérieur. Nous n'en savons pas plus jusqu'ici.
Deux personnes ont été tuées lundi soir dans la province de Rouyi au Burundi. L'incident a eu lieu dans un bistrot de la localité de Rouyi selon des sources administratives. D'autre part, hier soir également à Bujumbura, des tirs et des explosions de grenades ont été entendus dans le quartier contestataire de Moussaga. Les forces de l'ordre font des perquisitions dans cette zone aujourd'hui. Le point avec notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Selon les autorités administratives de la province de Rouyi, à l'est du Burundi, des hommes armés se sont introduits vers 21h dans un bistrot de la commune de Gisuru, située à quelques kilomètres de la frontière avec la Tanzanie. Ces fauteurs de troubles, que les autorités qualifient de criminels armés, ont tiré sur les clients qui s'abreuvaient. Un policier et un directeur d'école ont été tués sur le champ. Et ces criminels n'ont volé ni argent ni téléphone et se sont dirigés vers la frontière tanzanienne. Le gouverneur Hassan Abdallah a affirmé que c'est la première fois cette province subit de telles atrocités. Les quartiers contestataires de la capitale, les hauteurs surplombant la capitale et les provinces frontalières avec le Rwanda voisin étaient les seules régions où ce genre d'attaque était enregistré depuis la réélection contestée de Pierre Nkurunziza. Dans la même nuit de lundi, des tirs à l'arme automatique et l'explosion de grenades ont été entendus dans le quartier de Moussaga au sud de Bujumbura. Depuis avril dernier, plus de 200 personnes étaient tuées dans ces violences et des plus de 200 000 réfugiés inventorié par le HCR. Dans les pays voisins, la moitié a fui vers la Tanzanie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
D'autre part, l'ambassade des États-Unis a exprimé sa profonde inquiétude et sa préoccupation face à la récente annonce du gouvernement burundais de suspendre les activités de plusieurs organisations de la société civile burundaise, ainsi que le gel de leurs avoirs. Nous aurons en seconde partie d'émission une réaction de Bujumbura.
En Algérie, un incendie dans un camp de réfugiés a fait au moins 18 morts, tous des migrants africains. La presse locale fait aussi état de 43 blessés. Pour des précisions, VOA Afrique a joint Brahim Takeroubt, directeur de la rédaction du quotidien national algérien, L'Expression.
Ça s'est passé plus exactement dans la wilaya de Wourgla, à près de 800 km de la capitale Alger, c'est au sud du pays. La wilaya de Wourgla est connue pour être la wilaya pétrolière, c'est le poumon pétrolier de l'Algérie. Donc ça s'est passé aujourd'hui, mardi, 3h du matin, ça s'est passé dans cette wilaya, effectivement, c'est dramatique. Donc, vous savez, des accidents de ce genre, ils sont regrettables et condamnables, mais c'est rare, et heureusement que c'est rare, sinon, si ce n'était pas rare, ma foi, ce serait terrible pour l'humanité.
L'Algérie est devenue une destination de choix, dirait-on, pour les migrants subsahariens depuis quelques années.
Tout à fait. Vous savez que l'Algérie actuellement est entourée par une ceinture de feu. Toutes les frontières de l'Algérie sont des zones de tension. Il se trouve que L'Algérie est une zone où il y a la stabilité économique, politique et sociale. Il est tout à fait évident que les migrants fuyant la guerre, fuyant la famine, fuyant l'insécurité, convergent vers cet îlot de stabilité, de calme.
Le journaliste Brahim Takeroubt était joint à Alger.
En Libye, au moins 6 civils ont été tués ce mardi dans un attentat à la voiture piégée contre un barrage routier des forces de sécurité à 120 km à l'est de la capitale Tripoli, selon l'AFP, citant un responsable libyen comme source.
Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat suicide dans un hôtel de la péninsule du Sinaï, ayant tué un juge, 2 policiers, 1 civil et blessé et 12 autres personnes. Aujourd'hui, l'attaque a eu lieu au Souissina El Arish, où étaient hébergés les juges qui supervisaient les élections législatives de la veille. L'armée dit que les troupes et les policiers qui gardaient l'hôtel ont ouvert le feu sur une voiture chargée d'explosifs alors qu'elle s'approchait de l'immeuble. Mais selon elle, deux militants se sont introduits dans l'hôtel, l'un déclenchant sa ceinture d'explosifs dans la cuisine et l'autre ouvrant le feu dans une chambre. 3 assaillants ont été tués dans l'incident selon les autorités, mais le groupe État islamique a déclaré que l'assaut a été mené par 2 combattants.
Le Mali observe son 2e jour de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de vendredi à l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui a fait 20 morts selon le dernier bilan officiel. L'enquête se poursuit pour retrouver les complices présumés, tandis que les forces maliennes et internationales mènent des patrouilles nocturnes conjointes de sécurisation dans la capitale. En signe de solidarité avec le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie observent également ce deuil qui prendra fin demain mercredi.
Un adolescent est mort d'Ebola au Libéria, selon des responsables de la santé. C'est la première victime de la maladie dans le pays en près de 6 mois. Le garçon de 15 ans d'une banlieue est de la capitale, avait été diagnostiqué porteur du virus la semaine dernière. Son père et son frère ont également été testés positifs et ont été emmenés dans un centre de traitement à l'extérieur de Monrovia avec 3 autres membres de la famille. Plus de 150 personnes ont été mises sous surveillance, y compris les travailleurs de la santé et d'autres personnes qui ont été en contact avec la famille.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'aviation turque a abattu un avion de chasse russe à la frontière avec la Syrie. Ankara accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien, tandis que Moscou affirme que l'appareil était en territoire syrien. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Les responsables militaires turcs affirment que leurs F-16 ont abattu l'avion de chasse après qu'il eut ignoré 10 avertissements en l'espace de 5 minutes. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a fait savoir que son pays avait le droit d'agir contre toute violation de son espace aérien. Réagissant à cet incident, le président russe Vladimir Poutine a dit que l'appareil était en territoire syrien, à 1 kilomètre de la frontière turque quand il a été frappé et qu'il n'a jamais menacé la Turquie. M. Poutine a accusé la Turquie de poignarder la Russie dans le dos, selon ses termes, et de soutenir le terrorisme, y compris le groupe État islamique, a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec le roi de Jordanie, Abdullah II, à Sochi. Selon Vladimir Poutine, la Russie a noté depuis longtemps une grande quantité de pétrole et produits pétroliers qui entrent en Turquie à partir du territoire occupé par le groupe État islamique en Syrie, procurant ainsi un important soutien financier aux terroristes. L'incident aura de graves conséquences pour les relations turco-russes, a-t-il averti.
Et les 2 pilotes de l'avion russe abattu seraient en vie. La Turquie essaie de les récupérer selon Ankara. Rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et son homologue François Hollande. Les 2 leaders ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les djihadistes lors d'une conférence de presse conjointe qu'a suivi Idrissa Seloudia.
Oui, c'était une rencontre entre Barack Obama et François Hollande, et le président français voulait que les États-Unis et la France coordonnent davantage plus leur coopération dans cette lutte contre le mouvement djihadiste État islamique. Le président a présenté ses condoléances, encore une fois, à M. Hollande et au peuple français. Il a dénoncé l'idéologie meurtrière du groupe État islamique qu'il a qualifié de groupe barbare terrible, qui doit être détruit, que l'on doit détruire ensemble. Il a promis d'intensifier le soutien des États-Unis à la France, qui a intensifié ses propres frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie. Le président a aussi parlé de ce qui s'est passé récemment à Bamako en parlant de la nécessité d'aider encore la France pour mieux lutter contre le terrorisme en Afrique. C'est un phénomène mondial, littéralement, ce terrorisme qui n'épargne personne. Pour sa part, le président François Hollande a aussi remercié les États-Unis, disant que le président Obama a été le premier à l'appeler, et en réponse à M. Obama, qui avait dit qu'en somme, tous les Américains se sentaient français, étaient français depuis l'attaque du 13 novembre, M. François Hollande a rappelé qu'aussi après le 11 septembre, ici aux États-Unis, tous les Français était américain. Il a parlé de façon beaucoup plus spécifique de la nécessité de détruire ce mouvement sur place et aussi de renforcer la coopération dans le domaine du partage du renseignement et d'aller carrément détruire, l'État islamique en intensifiant ses frappes aériennes.
Que faut-il attendre de cette coalition internationale contre les djihadistes? François Hollande part en tournée justement pour forger cette solidarité. On y reviendra dans la seconde partie de cette édition.
Président.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La Chine livre à la Mauritanie un centre de technique d'élevage. Le président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a inauguré lundi près de Nouakchott un centre de technique de l'élevage, le premier dans le pays, réalisé sur don de la Chine pour un financement global de 7 millions de dollars, a annoncé mardi l'agence mauritanienne d'information. Selon l'agence, le centre est composé notamment d'une unité de fabrication de lait, des parcelles pour la culture fourragère, d'une ferme moderne pour l'élevage intensif de bovins d'une capacité de 400 vaches, d'une autre pour l'amélioration des races bovines, d'un service vétérinaire et d'une unité de transformation et de conservation des aliments verts destinés au bétail. La Côte d'Ivoire, elle, a lancé lundi son premier emprunt obligatoire sur les marchés financiers arabo-musulmans en vue de mobiliser 150 milliards de francs CFA, première phase d'une opération censée recueillir à terme le double, a annoncé lundi son premier ministre. La présente opération est ouverte aux investisseurs institutionnels et aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité ni de religion. La Côte d'Ivoire emprunte depuis 2 ans sur le marché international pour booster son économie en pleine croissance.
C'était la Minute Éco avec John Lyndon. Passe tout de suite au sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
La saga Michel Platini continue.
Oui, la situation de l'ex-triple Ballon d'Or se complique davantage. Il risque le bannissement à vie du monde du football que les commentateurs comparent carrément à la peine de mort. Gabi, c'est ce qu'envisage le rapport d'enquête de la Chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA, mais Michel Platini semble s'en moquer, une simple réaction en tout cas. J'ai beaucoup de chance, j'ai échappé au bûcher. Et Gabi, le bûcher est une forme de peine de mort consistant à brûler un condamné attaché à un pieu fiché en terre avec du bois, parfois complété de divers combustibles. Toutefois, il reste à Platini 2 voies de recours, faire un appel en interne à la FIFA, puis se tourner devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne en cas de rejet.
Le président de Boca Junior est devenu chef de l'État en Argentine.
Oui, il a été élu ce dimanche. C'est Mauricio Macri qui a présidé Boca Junior, le club le plus populaire de l'Argentine pendant 12 ans et a gagné 17 titres. La période la plus riche en trophées de l'histoire du club. Les Bosteros, les supporters de Boca, ont voté dimanche pour Mauricio Macri plus que pour son projet de société, a commenté un politologue en Argentine. Et ce fils d'Italien qui a fait fortune en Argentine parle des réserves et de la banque centrale. Son visage se ferme, mais lorsqu'il évoque son club bien-aimé de Boca Juniors, son regard s'illumine. Et la NBA, c'est LeBron James qui est au piédestal de Gabi.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Burundi, où le gouvernement burundais dénonce les sanctions du président Barack Obama contre de hauts responsables impliqués dans la crise qui continue à causer la mort de dizaines de personnes dans le pays. Les autorités à Bujumbura se disent plutôt indignées d'une certaine campagne de médisance et de calomnie contre leur pays. Eddy Issango a joint Willy Niamitwe, le porte-parole du président Pierre Nkurunziza.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans le cabinet Obama, l'ambassadrice Samantha Power, qui continue à propager des rumeurs contre le Burundi. C'est cette campagne de médisance seule qui dérange, sinon ces sanctions ne nous affectent pas.
Vous parlez des campagnes de médisance, alors que les jours même où ces sanctions ont été prises, le gouvernement a interdit aux ONG leurs activités.
Non, mais je pense que étant loin de la réalité burundaise, vous voulez nous dicter comment organiser notre société. Nous avons notre façon de nous diriger et il y a des personnes qui veulent perturber l'ordre et la sérénité du peuple burundais et quand la justice les poursuit, il y a certaines voix qui s'élèvent pour crier halte. Mais quand ça se passe ailleurs, vous avez vu le terrorisme en France, vous avez vu ce qui se passe en Belgique. Quand la justice et la police prennent des mesures pour sécuriser la population, personne ne lève son petit doigt. Alors même au Burundi, il y a des personnes qui ont voulu perturber l'ordre, qui ont fait un coup d'État et qui ont échoué, et d'autres qui ont attaqué notre pays. Alors toutes ces personnes-là, ainsi que leur soutien et leur lobby, le gouvernement du Burundi et la justice peuvent prendre des mesures à leur endroit et à leur égard afin de sécuriser et de protéger la société burundaise.
Ceux qui ont fait le coup d'État sont aussi visés par ces sanctions. Mais en ce moment-ci, il y a chaque jour des tueries au Burundi.
Laissez-moi rigoler. Quand on veut nous dire qu'on a sanctionné des putschistes, quand vous mettez quelqu'un qui est déjà appréhendé par les forces de sécurité burundaises et qui est en train d'être jugé au Burundi, qui croupit en prison, et une autre personne qui a disparu dans la nature et qui peut-être n'existerait même pas, eh bien, vous voulez qu'on en dise quoi? Le gouvernement du Burundi sait que ce n'est qu'une simple supercherie. Sinon, ceux qui sont derrière le putsch, ceux qui sont derrière les assassinats au Burundi sont connus. Certains sont des protégés du cabinet Obama, sont des protégés de Samantha Power. Il faudrait évoquer le cas de M. Alexis Ndouige, qui a une milice qui est en train de tuer des gens au quotidien, mais comme des gens qui le protègent se trouvent au cœur même du cabinet Obama, mais cette personne-là ne pourra même pas être touchée. C'est une personne qui a été citée à maintes reprises dans des rapports des experts des Nations Unies comme étant parmi les fauteurs de troubles à l'est de la République démocratique du Congo.
Tout ceci intervient alors qu'on parle maintenant de la délocalisation du siège de la CRGL. Comment vous réagissez? Pour des raisons de sécurité, évidemment.
Eh bien, toutes ces histoires, c'est des choses qui sont montées de toutes pièces.
Alain Niamitwe est conseiller principal en communication du président burundais Pierre Nkurunziza.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Encore quelques jours et les Burkinabés iront aux urnes pour élire démocratiquement un président et une assemblée nationale. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, veut un fort taux de participation au scrutin. Pour ce faire, elle a investi les marchés du FASO avec des stands d'information et de sensibilisation. À Ouagadougou, le reportage de Zoumana Wonogo.
Au stand installé en plein marché central de Ouagadougou, appelé Rodouoko, et sous les décibels d'une musique dans l'air du temps, nous avons rencontré des futurs électeurs qui ont des préoccupations.
J'ai ma carte d'électeur, mais maintenant je viens me renseigner si est-ce que avec ça, on peut se présenter le jour du vote en 2015. Là.
Je viens me renseigner sur mon bureau de vote et aussi pour voir s'il n'y aura pas de problème pour voter et le dimanche prochain. Aux messieurs sur la liste, ou un nom mal orthographié et ainsi de suite là-bas. C'est pour ça que je suis là. Donc je viens vérifier.
Ce sont ces préoccupations qui justifient, selon le président de la CENI, la mise en place des stands. On écoute le président, Maître Barthélémy Kéré.
On fera deux choses. Les sensibiliser pour qu'ils votent. Ensuite, leur montrer comment il faut y procéder.
Pour que le maximum de gens déjà prennent la décision d'aller voter. Que ceux qui sont là et qui sont en train d'hésiter, qu'on leur dise allez-y voter. Votez qui vous voulez, mais allez-y voter, premièrement. Ensuite, il y a des gens qui vont peut-être dire, oui, mais comment on vote? Parce qu'on ne sait pas votre histoire là, élection couplée, c'est compliqué, etc. On dit non, ce n'est pas compliqué. Les choses sont simples, mais il faut le dire.
Il faut le dire. Et celui qui est chargé de le faire s'appelle Roger Nanema. Suivons ses explications.
Monsieur, vous avez votre carte d'électeur? Ici. N'importe quel citoyen peut le faire avec son téléphone portable. En prenant la carte d'électeur, on entre dans la messagerie, on écrit BV, faites espace. Oui, vous mettez le numéro de la carte d'électeur qui se figure derrière la carte. Voilà, vous mettez le numéro de bureau de vote. Ensuite, vous lancez au 33-33. Il y a une autre procédure aussi, en appelant au étoile 33-9-10.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Tatiana Mosso avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Qui est derrière cet acte terroriste qui a fait au moins 21 morts? Semaine cruciale au Burkina Faso. Rendez-vous aux urnes ce dimanche après des mois de crise qui ont suivi la chute de Blaise Compaoré. Les élections suffiront-elles à ramener la stabilité au pays des hommes intègres? Kenya, Ouganda et Centrafrique voyagent sous haute sécurité du pape en Afrique. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h30.
Au Niger, les autorités ont décidé de reporter à une date ultérieure la tenue du Festival international de la mode africaine, le FIMA, pour des raisons sécuritaires. Grand rendez-vous des créateurs africains, ce festival devait s'ouvrir demain à Niamey. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa nous en dit plus.
L'annonce du report a été faite par le promoteur du festival, le créateur et styliste nigérien Alpha Di.
Moi, Alpha Di, et mon gouvernement, et surtout mon gouvernement, compatit à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, dans le domaine de la paix, et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date ultérieure. Reporter pourquoi ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à côté de chez moi, au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale.
J'accepte cette volonté pour que mon peuple ne souffre pas, pour que l'Afrique ne souffre pas, pour que ce festival puisse se faire dans des conditions magnifiques, pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Dans les rangs des participants, c'est bien évidemment la déception malgré la justesse de la raison du report.
Terrible d'apprendre que le FIMA est reporté. On ne sait pas quand. Je ne pense pas personnellement qu'il sera renouvelé cette année, mais plutôt l'année prochaine. Je me dis qu'au nom de la paix, certes, il faut faire des exemples pour éviter d'avoir des carnages comme nous avons vu encore récemment. Mais d'un autre côté, j'avais envie de poser à M. Alpha Di la question, comment la paix peut-elle revenir dans des conditions aussi terribles comme par exemple ce qui est arrivé à Bamako.
Le Festival international de la mode africaine FIMA regroupe tous les deux ans, depuis 1998, des stylistes et créateurs du continent africain et d'autres coins du monde à travers des concours de défilés de mode et des conférences sur les thématiques en lien avec l'art de la couture. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Le président américain Barack Obama a rencontré ce matin à la Maison-Blanche son homologue français François Hollande pour discuter des moyens de renforcer la lutte contre le groupe État islamique dans la foulée de la destruction d'un avion de combat russe le long de la frontière syrienne par la Turquie. Les deux leaders donnent maintenant même une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche. Alors, quelles conclusions tirer de leur entretien, Idrissa Seloudia?
Eh bien, tout à l'heure, on a donné l'essentiel de cette conférence de presse. Le président, Hollande, a parlé de la nécessité de frapper le groupe État islamique là où il faut, concernant les finances, reprendre des territoires et appuyer les groupes sur le terrain. Mais j'ai en ligne M. Walid Faresh, qui est professeur à la National Defense University. M. Faresh, que faut-il vraiment retenir de cette conférence de presse? Est-ce que le président Hollande a obtenu ce qu'il voulait auprès du président Obama?
Le président Hollande a obtenu une partie des points sur son programme, mais d'autres points vont être encore discutés à Washington, pas seulement au niveau de l'administration, mais entre l'administration et le Congrès et les agences de sécurité. Ce que le président français a reçu, et il l'a toujours reçu, c'était un appui américain inconditionnel pour frapper les forces de l'EI, Daesh, si vous voulez, en Syrie et en Irak, donner beaucoup d'espace à l'aviation française, aux forces navales françaises pour intégrer la campagne qui existe déjà dans cette région. Donc on va voir une coopération entre les États-Unis et la France, point de vue des renseignements, point de vue technologique, et probablement point de vue de l'intervention, mais très limitée, de forces spéciales sur le terrain. Là où le président français ne va pas recevoir un appui de l'administration Obama pour le moment, mais cela peut changer, c'est une déclaration que les États-Unis vont mettre des troupes sur le sol ou diriger une coalition terrestre pour reprendre du terrain. C'est-à-dire ce que le président Hollande voulait, il l'a dit maintenant dans sa conférence de presse, c'est reprendre du terrain, libérer du terrain, prendre Mossoul, prendre Raqqa, et donc avoir des forces sur le terrain pour cela. L'administration américaine, le président Obama hésite encore parce qu'ils n'ont pas encore bien décidé qui va remplacer les forces de l'EI. C'est là la grande question. Ce n'est pas seulement la destruction de ces forces, mais c'est le remplacement. Et là, il y a toute la question de la Syrie, de la légitimité d'Assad, des Iraniens, des Irakiens, des Kurdes. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Qui plus est, avec l'incident ce matin, aujourd'hui déjà, dans la région, avec l'avion russe qui a été abattu par les Turcs.
Alors donc, le président Obama a dit que, en ce qui le concerne, ce qu'il faudrait surtout, c'est éviter l'escalade dans cette affaire entre la Turquie et la Russie. Mais c'est en Russie que doit se rendre prochainement le président Hollande. Comment est-ce qu'on peut voir maintenant une meilleure coordination dans ce contexte?
C'est un peu ironique parce que le président français maintenant, représentant la ville qui a été frappée dernièrement par le réseau djihadiste, se situe comme à moitié chemin du président russe et du président américain. Donc il va faire le va-et-vient entre Washington et Moscou pour faire de sorte qu'il y ait une coordination un peu plus serrée entre les Russes et les Américains. Ce qui est important, c'est que cette coordination russo-américaine existait déjà dans le ciel de la Syrie. Il n'y a pas eu de tir entre l'aviation des deux côtés. Mais la façon dont la Turquie a commencé à faire des pressions sur les Américains a conduit les Russes à faire des incursions dans l'espace turc, et ce qui a résulté en un incident très grave, parce que la Turquie, rappelons-le et on le connaît bien, est un membre de l'OTAN. Et donc tout ce qui touche à la Turquie légalement toucherait à l'OTAN.
Merci beaucoup Walid Faresh, qui est professeur à la National Defense University. Gabi.
Merci Idrissa Seloudia.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, c'était Nachouane Calais. À la présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Vous pouvez partager vos impressions, souvenez-vous, vos photos. Vous pouvez poser des questions sur Facebook où l'on maintient la conversation. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com 24 heures sur 24 pour plus d'infos et des galeries photos et vidéos.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.